La mosquée Allah Sultan Teke, Larnaca. À 2 kilomètres de la ville de Larnaca, face à l'ancien aéroport international, au bord du lac Salé, dans un site pittoresque entouré de pins, de cyprès, d'eucalyptus et notamment de palmiers, est située la mosquée Allah Sultan Teke, un monument remarquable dont le minaret et la coupole dominent ce territoire unique. Selon les musulmans de Chypre, la mosquée occupe le 3e rang parmi les monuments les plus importants au monde, après la Kaaba à la Mecque et le sanctuaire de Mahomet à Médine. Un lieu qui attire chaque année de nombreux visiteurs, en particulier pendant le mois de Ramadan et les Bayrams. Selon la tradition, une des conditions qui doit être remplie par chaque musulman soucieux de gagner le paradis est le pèlerinage aux 4 lieux saints de l'islam. La Kaaba à la Mecque, le sanctuaire de Mahomet à Médine, le Allah Sultan Teke à Larnaca et Jérusalem. Selon certains écrits, les navires turcs naviguant à proximité de ce site sacré rendaient hommage à Aram, personne sainte pour les musulmans. Durant l'époque ottomane, de 1571 à 1878, les navires furent obligés de baisser le drapeau et tirer des coups de canon en signe de salut. La tombe d'Oum Aram, une sainte dame comme on le verra plus tard, est le point central du monument. La tombe est dissimulée par un drap vert, la couleur du paradis. La faible lumière ne permet pas d'apercevoir clairement la pièce. Pourtant, un chercheur expérimenté peut facilement reconnaître la valeur d'un monument tombeau ou d'un sanctuaire ou d'une trésorerie préhistorique. Selon Cobham, chercheur et auteur d'ouvrages importants sur Chypre, cette tombe serait étroitement liée à 2 autres monuments monolithiques connus à Chypre. Il s'agit de la tombe d'Aya Ekaterini, près de Salamine, à l'est de l'île, et du monument d'Aya Faneromeni, se trouvant à proximité de Larnaca, au sud-est. Au-dessus de la tombe, on peut voir une construction composée de 3 pierres. La première pierre est située au-dessus de la tête de la défunte. La seconde se trouve au-dessus de ses pieds, tandis que la troisième couvre son corps et, selon la légende, elle aurait été suspendue au-dessus des 2 autres pierres. En 1683, le voyageur hollandais Cornelis van Bruin visita et décrivit la construction. Les 2 premières énormes pierres se dressent à 15 pieds, 4,752 mètres de haut, tandis que la troisième est située au-dessus. Cette pierre sacrée constitue un vestige de grande importance pour les musulmans. Selon la légende, une nuit, les 3 pierres seraient venues de la Mecque et restées en lévitation pendant des siècles. Plus tard, lorsque la situation devint dangereuse pour les fidèles, les piliers se seraient posés droits de façon à servir d'appui. Ces pierres datent probablement de l'époque préhistorique. Nous ne disposons d'aucune information concernant la construction du Teke, monastère des moines musulmans ordre Mevlevi, à l'emplacement de la tombe d'Oum Aram, qui, selon la tradition, fut enterrée ici au printemps 649. Cependant, d'après les descriptions du voyageur Van Bruin, la tombe existait en 1683. De plus, nous savons qu'en 1760, suite à l'épidémie de peste qui frappa l'île de Chypre, le Mouassil, Mehmed Aga, gouverneur de province, entoura la tombe d'une enceinte en bois. L'année suivante, son successeur, Hajem Ali, remplaça l'enceinte en bois par un mur et 2 portes grilles. Enfin, avant 1787, se dressait une mosquée voûtée avec des chambres et des fontaines qui propagèrent la réputation du lieu saint. Plus tard, l'ordre des Mevlevi fut supprimé et le bâtiment fut utilisé comme mosquée. En 1816, le gouverneur turc Seyd Emim Efendi donna au bâtiment sa forme actuelle. Suite aux réparations effectuées par l'État chypriote et la dernière restauration de 2001-2005, financée par l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS, la mosquée est de nos jours en très bon état. Ces portes-grilles sont ornées d'une série d'inscriptions en arabe, bien préservées, qui incluent des dates historiques importantes, ainsi que des versets tirés du Coran. Mais comment cette sainte dame, Oum Haram, est-elle venue à Chypre? Il n'y a qu'à suivre les faits historiques. La situation géographique particulière de l'île de Chypre, dans l'espace maritime du territoire byzantin, et en même temps les visées du monde islamique émergent, transformèrent cette île, ainsi que la zone maritime alentour, en théâtre de concurrence féroce entre les deux superpuissances de l'époque. C'est pourquoi Chypre se trouva au point de rencontre de ces deux mondes et à l'avant-poste de la mer byzantine. Cela explique aussi pourquoi l'île devint la première cible des expéditions maritimes arabes. À l'époque, la mer était un territoire tellement inconnu et étranger à l'islam que Mouavia, fils d'Abu Soufiam, demanda à plusieurs reprises l'autorisation au calife, gouverneur d'une communauté musulmane de la Mecque, de la traverser. Suite à sa nomination en tant que gouverneur de l'ensemble des régions conquises, comprenant la Syrie, le Liban, la Jordanie et Israël, nommé à l'époque Sam, et sous le califat d'Othman, Mouavia s'engagea dans des campagnes militaires. Mouavia fut le premier commandant arabe à se rendre compte que, sans une puissante flotte, toute offensive contre l'Empire byzantin serait impossible. Ainsi, juste après la mort du calife Omar, grand conquérant arabe, il lança la construction d'une flotte. En l'an 28 de l'Hégire, moment où le prophète Mahomet quitte la Mecque pour s'installer à Médine, à la fin de l'hiver, voire au printemps de 649, il entreprit la première expédition avec sa flotte. Sous le commandement personnel de Mouavia, la flotte arabe attaqua l'île de Chypre. Il s'agit d'une flotte importante, comptant 1700 navires, qui furent réunis pour cette raison dans le port d'Alexandrie. Selon l'arabologue Baladuri, Mouavia réussit à obtenir le consentement du calife Othman et à lancer l'expédition, sous certaines conditions, entre autres, d'emmener avec lui sa femme. À l'instar de leur commandant, d'autres officiers prirent aussi avec eux leurs femmes. Mouavia s'embarqua en Acre accompagné de sa femme Fakita, tandis que l'officier Ubada ibn As-Samit fut accompagné de sa femme Oum Haram. Une fois arrivé et débarqué à Chypre, Oum Haram partit à dos de mule pour gagner l'arrière-pays. Malheureusement, en route, Oum Haram tomba de sa mule et se tua. Elle fut enterrée sur le lieu de l'accident. Dès lors, l'endroit fut connu comme la tombe de la Sainte Dame. Sur ce même lieu, on trouve aujourd'hui cet édifice à trois pierres. Plusieurs historiographes se réfèrent à cet événement qui exclut d'ailleurs l'intention de colonisation. Il faut noter que durant cette première attaque contre l'île de Chypre, les envahisseurs, après être parvenus à une entente avec les notables locaux, essayèrent par un compromis pacifique d'assurer la neutralité de l'île. Ainsi, d'après les sources arabes, les conditions de l'accord obligeaient les insulaires à verser chaque année aux Arabes un tribut de 7000 dinars et de leur offrir plusieurs autres facilités. En ce qui concerne Oum Haram, Koban écrit, selon un manuscrit intitulé « La fin de la dévotion à Oum Haram » que lui donna le cheikh du Teke juste avant la fin du XIXe siècle, Oum Haram fut considéré comme une femme miraculeuse. Le manuscrit comprend trois chapitres. Le premier chapitre se réfère aux divers noms attribués à cette sainte dame. Par exemple, Umeïssa, Ramla et Salah. Cependant, la plupart des experts soutiennent que son vrai nom est inconnu et qu'on ne connaît que son titre saint. Le nom de son père est Milan. Elle fut mariée à Ubada ibn As-Samit, le premier cadi, juge de Palestine, qui mourut à l'âge de 72 ans et fut enterré à Jérusalem. Oum Sulaym, la sœur d'Oum Haram, fut la mère d'Anas ibn Malik. Les deux sœurs, ainsi qu'Anas et Ubada, comptèrent parmi les compagnons étroits de Mahomet, qui servirent avec amour et dévotion le prophète. Le deuxième chapitre fait mention des batailles de Mahomet, des expéditions militaires où Oum Aram participa, ainsi qu'aux traditions liées à son nom. Selon un récit rapporté par Anas ibn Malik, l'envoyé d'Allah entra un jour chez Oum Ara à Médine. Elle lui servit à manger, puis se mit à lui épouiller la tête. Le prophète s'endormit. Quelque temps après, il se réveilla en riant. « Qu'est-ce qui te fait rire, envoyé d'Allah ?» lui demanda-t-elle. « Ce sont des gens de ma communauté, » répondit-il, « qui viennent d'être offerts à ma vue. Ils sont riches. Cependant, ils font une expédition dans le sentier d'Allah et naviguent en pleine mer, tels des rois sur leur trône, pour exalter la parole de Dieu et conquérir des îles et des villes. Ces bienheureux seront les premiers à entrer au paradis sans châtiment ni tourment. » Les bonnes nouvelles remplirent de joie le cœur éclairé d'Oum Aram et accrurent son zèle et sa volonté de participer à cette expédition pour conquérir les îles et prendre sa place parmi les vainqueurs de la mer. « Demande au Seigneur, envoyé d'Allah, reprit-elle, que je sois parmi eux. » « Tu es déjà avec les précédents, répondit-il. » Il invoqua alors Allah en sa faveur et lui promit qu'après la mort du prophète, les fidèles devraient entreprendre des guerres et des expéditions pour propager l'islam et conquérir des îles et des villes, et que ceux qui donneraient leur vie pour leur foi seraient les premiers à gagner le paradis comme promis. Le troisième chapitre analyse l'historique et l'avancée de l'expédition. Après avoir obtenu l'autorisation du calife Othman en l'an 27 de l'Hégire, les troupes sous le commandement de Mouawiya entrèrent à Damas, puis à Jérusalem. À travers Ramla, la ville actuelle de Ramleh en Palestine, les troupes se rendirent à Tripoli. Là, ils réunirent plusieurs barques et navires et embarquèrent à destination de Chypre. Parmi les officiers se trouvaient Oubada et son épouse Oum Aram. Ils débarquèrent à environ 2 heures du port de Larnaca. Oum Aram partit à dos de mule, mais à l'endroit où se trouve aujourd'hui sa tombe, elle tomba et son cou se rompit, provoquant son décès. Ainsi, s'est réalisée la promesse du prophète, « Tu es déjà avec les précédents. » Cela est considéré comme un des miracles de Mahomet. Oum Aram elle-même est considérée comme une femme miraculeuse. C'est pourquoi le Teke est visité chaque année par de nombreux pèlerins musulmans. L'imam, guide religieux de Mounavi, raconte que le peuple de Damas, frappé par la sécheresse et d'autres malheurs, et animé d'une foi profonde, supplia Oum Aram de demander au prophète de leur envoyer de la pluie et de les délivrer de tout malheur et danger. Mahomet, par respect pour la Sainte Dame, dissipa les inquiétudes et les préoccupations du peuple et leur envoya la pluie et des bénédictions. On compte aussi parmi ces miracles le récit mentionné dans l'épilogue du manuscrit. Au cours de son voyage de Jérusalem à Ramla, Oum Aram fut hébergée par un moine chrétien. Là, elle vit 3 énormes pierres et exprima sa volonté de les acheter. Convaincu qu'il était impossible de faire bouger les pierres, le moine les lui donna. Oum Aram accepta son cadeau avec plaisir. Puis, elle ajouta qu'elle emporterait les pierres à un autre moment et continua son voyage. Bougée par une force divine, les pierres se trouvèrent la nuit même de son enterrement sur sa tombe. Une pierre s'installa au-dessus de sa tête sainte, la deuxième pierre au-dessus de ses pieds saints et la troisième resta en lévitation au-dessus des autres pierres. Ce fait attribué à Oum Aram fait partie de ses miracles conformément à la tradition musulmane. Au cours des siècles, le Teke fut visité par de nombreux voyageurs connus. Parmi eux, le français de la Rouaère, qui était en route vers la Terre Sainte. En particulier, il mentionne qu'il visita la mosquée, qui jouit parmi les musulmans d'une grande réputation comme lieu de pèlerinage. Nous nous rendîmes à la mosquée, qui plaçait près d'un grand lac et des montagnes boisées, est vraiment dans une situation ravissante. Mais l'air y est très insalubre. À côté de l'enceinte de la tombe d'Oum Aram, se trouve une grande tombe en marbre blanc, appartenant à Hatice, une femme d'origine turque, épouse d'Hussein, roi du Hedjaz. Elle mourut à Chypre en 1929. Le Hedjaz est la région ouest de l'actuelle Arabie Saoudite, parallèle aux rivages de la mer Rouge, face à l'Égypte et l'Afrique. Les villes sacrées de la Mecque et de Médine sont situées dans cette région. C'est pourquoi celle-ci est considérée comme le berceau de l'islam. Hatice était la fille aînée du fameux grand vizir, fonction équivalente à celle du commissaire ou du premier ministre, ottoman, Mustafa Reşit Pacha, réformateur du XIXe siècle. Il est temps d'aller faire un petit tour à pied pour admirer ce monument important. Nous sommes dépassés par le paysage idyllique, mais aussi par la grandeur du monument. On avance le long de la voie pavée qui nous mène à l'entrée. On descend les escaliers et on se trouve face à la porte, en pierre calcaire, principale de la mosquée, ancien monastère de moines musulmans. L'entrée majestueuse porte des inscriptions en arabe dans sa partie supérieure. On avance, le visage baigné de lumière provenant du patio. À droite, on peut voir les chambres où résidaient les femmes épouses du cheikh du Teke, et à gauche, les appartements du cheikh, chef de la mosquée. Ce fait est mentionné par le docteur et voyageur de la Rouaer, qui soigna les épouses malades du cheikh lors de sa visite à la mosquée en 1832. Le cheikh était en compagnie de son frère, qui pratiquait ses devoirs religieux. Toutes les chambres donnent sur une terrasse couverte et un portique en bois peu élevé. Au fond à gauche se trouve aujourd'hui le bureau des gardiens du monument. On traverse les jardins pour atteindre la fontaine à ablution, bordée d'un portique, et à droite, la mosquée. Les sièges en bois autour du kiosque hexagonal ont été offerts, selon l'inscription, par la Banque turque de Chypre. Avant la prière, les fidèles doivent se laver les mains, le visage, le cou, les cheveux et les pieds. Ensuite, ils doivent enlever leurs chaussures à l'entrée de la mosquée. Nous enlevons nous aussi nos chaussures à l'entrée de la mosquée, du teke, conformément aux règles du site. On sent la chaleur du tapis sous les pieds. Le blanc domine, recouvrant murs et coupoles. Comme d'habitude, aucune représentation visuelle, aucune icône n'est présente. En face de l'entrée de la salle se trouve le mihrab, une niche creusée dans le mur en pierre calcaire, d'une hauteur d'environ 2,80 m. Le mihrab indique la Qibla, c'est-à-dire la direction de la Kaaba à la Mecque, lieu de naissance du prophète Mahomet. En face, à droite, se trouve le mimbar, en haut d'une série de marches en bois de couleur verte, symbole du paradis, qui mènent à une sorte de pupitre surmonté d'une toiture pointue et couronnée d'un croissant de lune. Le mimbar sert de chaire. L'imam y récite le Coran, le livre sacré de l'islam rédigé en arabe. Au-dessus de l'entrée du mimbar, on peut voir une inscription en arabe qui atteste « Nulle divinité sauf Allah et Muhammad est le messager d'Allah ». Au coin droit, on peut voir un socle en bois à base ronde, d'un mètre de haut, sur lequel est posé le Coran si nécessaire. Selon les musulmans, il est méprisable de poser le Coran à même le sol. En haut, on peut voir la coupole dont la base est ornée de 8 arabesques. Il s'agit de 8 tablettes en bois sur lesquelles sont gravées des inscriptions en arabe se référant à Allah, à Mahomet, aux membres de la famille de Mahomet, entre autres son petit-fils Hussein, sa fille Fatima et son mari Ali, ainsi qu'à d'autres noms mentionnés dans le Coran. Le dos tourné au mihrab, on se trouve face à l'entrée. À droite, on voit les escaliers qui mènent à l'espace réservé aux femmes. En haut à gauche, le rideau en bois, bagdati, technique de l'enduit sur la tille. Derrière le rideau, lors de la prière, les femmes doivent porter des vêtements amples et couvrir tout leur corps, sauf le visage, les mains et les doigts de pied. On avance en montant les deux marches à la gauche du mihrab. On passe par l'entrée qui donne sur un espace oblong. À gauche dans la cour, on distingue la grande tombe en marbre de Hatice, épouse d'Hussein, roi du Hedjaz. Plus bas, à gauche et à droite, se trouvent quatre autres tombes dotées d'une couverture verte en bois, qui abritent probablement des personnages révérés. aucune inscription connue ne permet de confirmer leur identité. Tout droit, dans un troisième espace couvert, on trouve la tombe de la Sainte Dame, Oum Aram, ornée des trois immenses pierres, comme mentionné dans le récit du voyageur hollandais Cornelis van Bruyn. La tombe est entourée de deux portes grises et d'un passage fermé tout autour. En sortant de la mosquée, on se dirige tout droit au fond. On peut admirer quelques trouvailles archéologiques datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. À l'ouest, à 800 mètres de la mosquée, se trouvent les ruines d'une ancienne ville chypriote qui remontent à la fin de l'âge du bronze, 1650 à 1050 avant Jésus-Christ. Deux missions archéologiques britanniques ont effectué des fouilles sur le terrain en 1898-99. C'est pourquoi une grande part des trouvailles mobilières se trouve au musée britannique à Londres et le musée de Chypre à Lefkosia n'en abrite qu'un nombre réduit. Les fouilles se sont poursuivies intensivement par la mission archéologique suédoise en 1971 et récemment par le département des antiquités de Chypre. Les trouvailles sont exposées au musée de Chypre et au musée archéologique de Larnaca. Finalement, ce serait une négligence de ne pas mentionner le lac salé de Larnaca, situé juste à côté de la mosquée. Dans le cadre de la Convention sur les zones humides, Convention de Ramsar, signée en 2001, le lac salé de Larnaca est désigné site Ramsar numéro 1081, zone humide d'importance internationale. Pour cette raison, la zone attire plusieurs observateurs d'oiseaux. L'eau de pluie se dépose sur la surface du lac où hivernent de nombreuses espèces migratrices, telles que les flamants roses, de Phoenicopterus ruber, diverses espèces de canards sauvages, de Anas creca, des mouettes, Larus cachinans, Larus ridibundus, des pluviers, Caradrius alexandrinus, Actitis, Hippoleucos, etc. La salinité de l'eau est liée à la teneur en sel du sous-sol dans les lacs de la région. À la base de la productivité du lac salé se trouve l'algue unicellulaire Dunaniella salina qui sert de nourriture aux Anostracées, Artemia salina, qui eux-mêmes sont consommés par les flamants et surtout par Phoenicopterus ruber, ainsi que par d'autres oiseaux hivernant du lac. Des communautés halophytes s'étendent sur une bonne partie du pourtour du lac, à savoir sur les terrains qui ne sont pas inondés. Les espèces dominantes sont les tamaris et les salicornes. Par exemple, Arthroctenum macrostachium, Aloctenum strobilaceum et Allopeplis amplexicolis. Pour les amateurs de randonnée en forêt, le département des forêts a créé un sentier de nature d'un kilomètre qui commence près du Allah Sultan Teke et couvre une partie de la zone sud du lac Salé. Au-delà du Teke, le sentier s'étend jusqu'à l'arc-duc de Larnaca, édifice du XVIIIe siècle, et aboutit au parc national forestier de Rizoelia, représentant une distance totale de 12 km. Le sentier fait partie du sentier européen E4 qui débute en Espagne, en face du détroit de Gibraltar, et passe par 8 pays pour finir à Chypre. Selon la légende, Saint Lazare serait arrivé après sa résurrection sur ce lieu, qui en ce temps-là était un vignoble. Une vieille femme, la propriétaire, tenait un grand panier plein de raisins. Le saint lui demanda quelques grains pour étancher sa soif. Ne voulant lui donner aucun grain, la propriétaire répondit à la requête du saint en lui disant que le panier contenait du sel. Une fois chez elle, la dame regarda dans le panier et constata que son panier ne contenait que du sel. Ce monument, à tous égards important, a aussi inspiré le grand poète grec Georges Seferis, lauréat du prix Nobel de littérature, qui a écrit le poème « Trois mules » inclus dans l'œuvre « Journal de bord 3, Chypre », où Apollo m'ordonna par oracle, publié à Athènes en 1955. À Damas, une nuit de veille, j'ai cru voir le passage d'Oum Aram de la lignée hautement honorable du prophète. J'entendais des fers à cheval comme un tintement de dinars d'argent. Et elle, on eût dit qu'elle franchissait les collines de sel du côté de Larnaca à Califourchon sur sa mule. Ce fut là où glissa ma bête. Cette pierre-ci brisa ma nuque auréolée et triomphante. J'ai rendu l'âme. J'étais pleine de la volonté de Dieu. Une mule ne peut supporter une telle charge. Ne l'oublie et ne sois pas injuste envers elle. Georges Séphéris, journal de bord 3, Cypron, ou Métès Pisen, Chypre où Apollon m'ordonna par oracle, introduction, traduction, commentaire, par Christos Papazoglou, édition, publication, langue O, Paris, édition Nefeli, 2002. Heure d'ouverture, ouverte tous les jours, sauf les jours de Noël, de Nouvel An et le dimanche de Pâques. Du 1er novembre à fin mars, de 8h à 17h. Du 1er avril à fin mai, de 8h à 18h. Du 1er juin à fin août, de 8h à 19h30. Du 1er septembre à fin octobre, de 8h à 18h. Note: la visite de la mosquée est interdite lors de la prière du vendredi de 13h à 15h, lorsque le sermon est prononcé par l'imam.